Carl, bonsoir.
Bonsoir, Jean-Marin. Merci pour l'invitation.
Vous êtes le CEO de Polaris Secure Technology, Malik. Vous vivez en France, vous êtes là à Dakar. Dites-nous alors, quel est l'objet de votre séjour ici?
Bon, le séjour, c'est un séjour donc de vacances déjà, et pour revoir la famille, mais également aussi pour venir rencontrer et travailler avec mes équipes qui sont basées, une partie de mes équipes qui sont basées donc à Dakar, donc la filiale de Polaris Secure Technology, Polaris Secure Technology Afrique.
Et quelle est l'actualité actuellement chez vous, avec l'équipe, tout ça, vous êtes en train de travailler sur quoi?
Là, on a un certain nombre de dossiers d'accompagnement donc sur de FinTech, donc sur la partie PCI-DSS, donc pour la certification PCI-DSS. Là, on a été en train aussi de travailler hier avec 3FPT, donc pour avoir un agrément, pour accompagner effectivement donc les personnes et les entreprises qui souhaitent être formées donc sur la partie cybersécurité, de pouvoir les accompagner plus facilement. Et puis on est sur d'autres dossiers aussi qui sont en cours de validation, qu'on attend donc incessamment, donc sur des accompagnements aussi bien de formation, d'accompagnement, d'implémentation de systèmes de management de la sécurité de l'information pour certaines entreprises qui sont basées donc à Dakar, ainsi que donc des partenariats qui sont en cours de finalisation avec un certain nombre aussi d'entreprises avec qui on compte travailler donc très fortement. Voilà donc un séjour assez dense quoi.
Et vous êtes venu dans un contexte où on parle vraiment de l'emploi des jeunes, entre autres. Est-ce que le secteur des technologies peut donner carrément beaucoup de métier aux jeunes, hein?
Oui, absolument. Bon, la demande, en tout cas, en termes donc de besoins dans le monde donc du tech de façon globale, ainsi que dans le monde de la cybersécurité, le monde que je connais le plus, est extrêmement forte. Là, aujourd'hui, la demande est extrêmement forte et malheureusement, on a beaucoup de mal à avoir donc une offre de qualité. Là, Polaris, par exemple, pour donner juste l'exemple que je maîtrise très bien, est en phase de recrutement et de croissance très forte. Mais on a du mal à trouver donc les profils qui vont bien. Voilà, les profils qui correspondent véritablement à nos besoins, malheureusement quoi. Donc les demandes que l'on reçoit généralement ne sont pas forcément toujours en adéquation par rapport aux besoins réels du marché. Donc pour répondre à ce type de complications, effectivement, donc du fait que effectivement il y a un déphasage entre donc ce qui existe dans le monde donc de l'entreprise et dans le monde donc des écoles et des universités, effectivement il faudrait qu'il y ait un rapprochement entre les professionnels et les universitaires et les écoles donc de formation, de sorte à former les jeunes à avoir donc un métier à la sorte de l'école. Mais malheureusement, les jeunes qui sortent de l'école aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne sont pas opérationnels. Il va falloir les prendre encore 6 mois peut-être pour leur apprendre un métier véritablement pour qu'ils puissent être véritablement opérationnels. C'est d'ailleurs dans cette lancée-là que Polaris envisage véritablement donc dans le cadre d'une offre qui est en cours de gestation, qui va être lancée donc d'ici à la fin de l'année voire l'année prochaine, une offre donc de confiance numérique qui consiste à faire de la supervision, du CERT, du pentesting et du forensic, d'ouvrir une école donc qui permettra donc de donner donc des formations courtes donc très opérationnelles. Là on n'entrera plus donc dans des choses plutôt théoriques, donc on va aller directement au but. Donc les jeunes qui veulent apprendre un métier bien précis, donc en 6 mois on les forme à être complètement opérationnels et pouvoir tenter leur chance donc dans le monde du travail, que ce soit le métier de pentester, que ce soit le métier donc d'analyste SOC, que ce soit donc le métier donc d'opérateur donc forensique, pour venir opérer juste après un incident et essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé et dans quel cadre ceci s'est passé.
Malik, vous apprenez comme moi, hein, que l'État du Sénégal a inauguré le data center, le centre de données. Hein, et le Sénégal qui dispose maintenant d'un centre de données. Ok. Mm-hmm. Maintenant, quelle est son utilité à votre avis pour le Sénégal surtout?
Bon, c'est extrêmement utile d'avoir donc effectivement des data centers, d'avoir effectivement des centres de données dans chaque pays. C'est un socle. C'est un pas important donc pour faire de sorte que ces données-là, les données restent dans le pays. Donc ça, il faut le noter, il faut le saluer comme tel et savoir qu'effectivement, c'est un enjeu important pour le Sénégal et pour l'Afrique de façon globale, de faire de sorte que les données de ses citoyens restent à l'intérieur de ses frontières. Tous les pays le font, en tout cas, la plupart des pays le font. Quand vous allez donc en Europe, par exemple, ou en France, plus précisément, il est interdit que les données à caractère personnel, par exemple, des Français soient hébergées ailleurs, sauf dérogation qui soit justifiée, argumentée, etc., etc. Dans d'autres pays plus proches que chez nous, hein, donc en Côte d'Ivoire seulement, quand vous y allez aussi, il y a une loi similaire. Donc, il interdit que les données à caractère personnel des Ivoiriens soient hébergées ailleurs. Certains opérateurs, d'ailleurs, demandent des dérogations en justifiant qu'ils sont filiales de grands groupes, etc. Voilà, donner des justifications qui leur permettent finalement donc d'avoir une dérogation pour pouvoir héberger les données donc des Ivoiriens ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une question primordiale d'avoir nos données chez nous. Les données des personnes, c'est important, c'est très très important, mais c'est encore plus vital pour les données de l'administration, donc que ces données-là puissent rester dans le pays, donc puissent rester dans le territoire européen, en France, dans le territoire africain de façon globale pour faire un peu plus large et ne pas juste se contenter donc de dire que tout doit être au Sénégal pour les Sénégalais, avoir une vision un peu plus large, une vision un peu plus collaborative entre les différents pays, intégrative donc entre les différents pays donc de l'Afrique, ce qui nous donnerait encore beaucoup plus de possibilités et de force de frappe et d'aller plus vite que chacun, si chacun veut avoir une souveraineté entière et complète, ça va juste créer, continuer à accentuer la balkanisation et le manque de collaboration entre les différents pays, et ce n'est pas forcément la meilleure chose qui soit pour nos pays.
On voit déjà qu'il y a des données qui ont été transférées parce que quand même si l'administration ou bien d'autres institutions qui utilisent des points com, entre autres, qui ne nous appartiennent pas en général, les points com là, maintenant, les autorités parlent de transfert de ces données-là et que tous ces sites-là qui sont hébergés ailleurs puissent, par exemple, revenir ici. Mm-hmm. Quelle est la technicité qu'il faut utiliser pour ça?
Oui, c'est pas techniquement compliqué. Hein. En fait, c'est extrêmement simple pour transférer donc des données, pour transférer un site web donc de l'étranger vers un pays, un autre pays. C'est extrêmement simple. Généralement, ces sites-là sont sur des serveurs, des VM, ce qu'on appelle des virtual machines, qui sont prêtes, donc qui appartiennent donc à celui qui héberge tout simplement donc son site à l'étranger, ou alors ce n'est même pas sur une VM de façon entière, mais c'est juste quelques répertoires dans une VM qu'on alloue donc à une personne, une entreprise qui a besoin donc de cet hébergement là. Ben, il suffit juste de copier tout cela et de le rapatrier donc où l'on veut. D'accord. Après maintenant, ce qui reste, la suite c'est justement de pouvoir faire ce qu'on appelle une redirection DNS, parce que les sites, nous on va voir par exemple présidence.sn, donc mais derrière présidence.sn il y a une adresse, ce qu'on appelle une adresse IP. Donc cette adresse IP là, c'est une adresse qui est une adresse, si le site est hébergé au Sénégal, c'est une adresse qui appartient au Sénégal. Donc si le site était hébergé donc en Allemagne, ce serait une adresse donc de l'Allemagne. Il faudrait juste que l'on déclare au serveur DNS que sénégal.sn qui avait une adresse IP qui est le numéro correspondant, donc le numéro correspondant, donc qui était en Allemagne, et désormais donc le numéro qui est au Sénégal, pour que toute personne qui veut aller sur présidence.sn donc soit redirigée vers la bonne adresse IP, parce qu'in fine on communique avec les adresses IP, les noms DNS, ce qu'on appelle les noms DNS, comme présidence.sn, comme google.com, etc. Ça, ce sont juste des choses pour faciliter donc et accompagner l'homme dans sa paresse. Donc l'homme n'est pas fait pour retenir des choses compliquées. Une adresse IP, c'est une suite de chiffres assez complexe à retenir. Et c'est plus facile de retenir google.fr ou présidence.com que de retenir l'adresse IP correspondante et de le faire pour l'ensemble des sites. Okay. Donc c'est juste un travail extrêmement simple.
Malik Fall, je rappelle que vous êtes le CEO de Polaris Secure Technology. Alors, oui, le Sénégal a un data center, un centre de données. Et après maintenant, est-ce que nous sommes maintenant souverains en matière de numérique?
Non, là, un data center ne signifie pas de la souveraineté numérique. C'est très la souveraineté numérique, c'est un ensemble de choses extrêmement importantes et corrélées qui doivent amener donc à une souveraineté. C'est pas juste parce qu'on a un data center qu'on est souverain. Avoir ces données à l'intérieur du pays ne veut pas dire que c'est nous seulement qui pouvons accéder à nos données. Donc l'enjeu n'est pas seulement d'avoir les données donc à l'intérieur donc du pays, mais c'est aussi assurer effectivement la sécurité de ces données-là, donc assurer donc effectivement la maîtrise de l'accès à ces données, la disponibilité de ces données, la confidentialité. Ces enjeux-là, il faut les régler d'un côté. Mais quand on parle aussi de souveraineté, ce n'est pas, on ne peut pas parler de souveraineté en ayant un data center dans lequel l'ensemble des équipements qui ont amené à fonder ce data center là et provient d'ailleurs, une véritable souveraineté. Donc à minima on maîtrise un bout de la chaîne qui permettrait effectivement, si les autres chaînes sont défaillantes, donc effectivement si les autres nœuds de la chaîne sont défaillants, que notre équipement, le maillon que l'on a maîtrisé donc de cette chaîne là puisse apporter, jouer véritablement son rôle. Et quand je parle de défaillance, c'est pas juste une défaillance technique, mais ça peut être effectivement d'autres choses que l'on a connues dans le passé et continue à connaître. Hein. Donc des équipements qui sont piégés par les constructeurs pour des besoins effectivement donc d'intelligence numérique, d'espionnage, on va le dire de façon très crue. Et ça, on l'a connu dans le passé, on continue à le connaître. Hein. Beaucoup de types d'équipements ont été accusés très longtemps, donc des équipements de référence dans le monde effectivement de la cybersécurité, dans le monde aussi du numérique de façon globale, ont été suspectés régulièrement de faire effectivement de l'exfiltration de données, d'ouvrir des portes dérobées, d'aménager ce qu'on appelle des portes dérobées, donc pour que les constructeurs ou en tout cas les personnes commanditaires donc de ces portes dérobées-là puissent avoir accès à ces données. On en a entendu parler sur Cisco, on en a entendu parler sur les équipements de Huawei, on en a entendu parler sur les Juniper, etc., etc. Donc tous ces équipements-là peuvent embarquer effectivement des choses que l'on ne maîtrise pas parce qu'on n'a pas fait suffisamment de rétro-ingénierie pour pouvoir savoir tout ce qu'il y a dedans et maîtriser correctement, savoir ce qu'il y a véritablement dans ces équipements-là et s'il y a des choses qui sont malveillantes, qu'on puisse les enlever ou changer d'équipement. Mais en plus de cela, on n'a pas fait cela, mais en plus de cela, on n'a pas effectivement un autre maillon de la chaîne qui peut contrôler ce maillon-là s'il est défaillant, s'il y a effectivement une vulnérabilité ou une faille qui a été volontairement installée dessus, qui pourrait être exploité, cet autre élément-là pourrait nous protéger. Je donne juste souvent un exemple, hein, quand on arrive en France par exemple, dans des environnements qui sont des environnements ultra sensibles qu'on peut avoir aussi au Sénégal. Hein, donc les données qui concernent par exemple la présidence, qui vont être hébergées aujourd'hui dans ce data center parce que le président le demande, les données qui concernent la douane, les données qui concernent donc les impôts et domaines, toutes ces données-là pourraient un jour arriver dans ce data center-là. Si effectivement dans tout le maillon de la chaîne, effectivement, il n'y a rien qu'on maîtrise, si c'était en France par exemple, on dirait que pour accéder à ces données-là, qui sont des données que l'on considère comme étant de niveau de criticité très très importante, il faut traverser au moins trois éléments de contrôle. Et ces trois éléments de contrôle ont exigé, jusqu'à très récemment, que ce soit donc des éléments de contrôle d'origine de pays différents. Donc on traverse les trois, si c'est des firewalls par exemple, qu'on ait trois firewalls d'origine de pays différents, de technologies différentes, mais aussi que le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire que le firewall qui est le dernier recours, soit purement français. Donc ça c'était l'exigence effectivement que la France se donnait donc sur des environnements qu'il considérait comme étant sensibles. Là aujourd'hui si on voulait se mettre cette exigence-là, ce serait extrêmement difficile parce qu'on n'a pas cette technologie chez nous. Donc effectivement, pour faire de la souveraineté, il faut partir effectivement sur des fondamentaux. Essayer d'encourager effectivement les entreprises, de bâtir effectivement des entreprises locales qui pourraient produire effectivement ce type d'équipement. Donc si ce n'est pas donc au niveau donc du pays, mais au moins que ce soit au niveau donc africain, de promouvoir effectivement des champions qui peuvent le faire. Et c'est pas compliqué, hein, plus compliqué que cela. L'essentiel aujourd'hui des équipements que l'on utilise partent des solutions open source qui ont été customisées, retravaillées, habillées, tout simplement qu'on vient nous revendre à des prix exorbitants. Pourquoi ne pas faire la même chose, faire cette démarche donc de faire de la recherche et du développement donc sur des solutions open source pour avoir des solutions customisées africaines qu'on maîtrise et puis qu'on puisse utiliser donc comme un dernier rempart si on a donc des problèmes avec d'autres types d'équipements.
On va terminer avec ce qui s'est passé avec Dakar Demdik. Des passagers qui veulent se rendre dans les régions, ils font la commande en ligne. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Le directeur dit que voilà, il y a une panne de la plateforme pour acheter. Mm-hmm. Est-ce que ça pourrait éviter ce genre d'incident?
Oui, absolument. Bon, en fait, il y a ce qu'on appelle en sécurité la sécurité by design. Malheureusement, c'est ce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne font pas. En fait, quand on conçoit une application, quand on conçoit un site, il faudrait l'accompagner. Il faudrait faire de sorte que ce site-là soit conçu en respectant d'emblée, dès le début, dès sa conception, les bonnes pratiques de sécurité. Et pour le faire, il faudrait qu'on fasse une analyse d'abord, avant, donc pour identifier l'ensemble des besoins de sécurité. Si c'est un site qui est critique, qui doit permettre aux gens de pouvoir acheter des billets, pouvoir voyager, donc il y a une certaine criticité, donc notamment en termes de disponibilité. Il faudrait que cette notion de disponibilité-là soit intégrée. Pour que cette notion de disponibilité-là soit intégrée, si on l'avait anticipé, on allait dire que ce site-là ne devrait pas être hébergé que sur un seul serveur, de sorte que si ce serveur tombe, donc on n'est plus rien. Donc ça doit être réparti sur deux serveurs. Et ces deux serveurs-là, peut-être, doivent être dupliqués donc, sur un autre site. Donc, de sorte que si dans le site principal, il y a un des serveurs qui tombe, le second prend le relais sans qu'on ait besoin de basculer. Et si c'est le site lui-même qui tombe en panne, donc qu'on puisse basculer complètement dans un site de secours pour pouvoir continuer donc, l'activité de façon correcte. Malheureusement, c'est ce type d'analyse-là que les gens ne font pas. Ils vont se contenter juste de faire un truc qui fonctionne, qui est joli, mais qui ne respecte pas forcément les bonnes pratiques de sécurité. Cette analyse est importante et cette analyse, quand on le fait, effectivement, ça nous permet, dans la conception de nos applications, de nos sites et de nos infrastructures, de l'embarquer, de nos data centers aussi, de les embarquer donc dans la conception, dans la mise en œuvre, mais aussi il faudrait le recéter avant même de déployer donc ce data center-là, par exemple, avant qu'on demande donc de mettre effectivement l'ensemble des données donc de l'administration dessus. J'espère qu'ils ont eu à faire donc des tests de bascule sur un site de secours, si toutefois ce site de secours existe, qu'on puisse s'assurer que effectivement si le site principal venait à avoir un problème qu'on ne souhaite pas, donc effectivement qu'on puisse basculer donc sur le site de secours et que l'administration puisse fonctionner, que le conseil de ministre puisse se tenir convenablement, donc que les ministères puissent communiquer, le ministre de l'Intérieur puisse communiquer avec ses différents préfets et gouverneurs, etc. Et que l'administration douanière puisse faire rentrer des sous pour que les gens puissent... voilà, c'est important. Donc cette réflexion-là, il faudrait la faire en amont, il faudrait l'implémenter pendant, il faudrait la recéter après. Et il faudrait continuer à le maintenir pour avoir une amélioration continue de jour en jour avec des systèmes qui existent, ce qu'on appelle le système d'aménagement de la sécurité de l'information qui permet de recéter et de gérer de façon continue donc, la sécurité du système d'information de façon efficace.
Malik Fall, CEO de Polaris Secure Technologies, vous étiez notre invité. Je vous remercie, Malik Fall.
Merci beaucoup, Gilles Moron, pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi donc sur les problématiques de cybersécurité
et
de l'actualité.
Merci Malik.
Merci beaucoup.
On va à Wolof maintenant.